Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'écouter Meet the Dev. Je suis Franck, level designer dans l'industrie du jeu vidéo, et j'ai décidé pour vous et avec vous de discuter avec d'autres développeurs de jeux de tous les horizons. Dans Meet the Dev, la parole est donnée aux indépendants, comme aux salariés de grosses entreprises, aux juniors comme aux vétérans. Tout le monde a sa propre histoire et nous allons donc discuter avec nos invités de leur carrière, de leurs avis sur l'état de l'industrie, de leur réussite, mais aussi de leurs échecs, ainsi que de ce qui leur tient à cœur dans leur travail. Bienvenue dans Meet the Dev. Alors, tout d'abord, je tiens à vous dire que je suis très heureux d'enfin lancer ce nouveau podcast qui a été évidemment soulevé par l'impulsion du hashtag Meet the Dev sur Twitter. Comme le hashtag, mon intention est ici de vous faire découvrir les visages qui se cachent derrière la production de jeux vidéo. Alors, il y a deux facettes à ça. Il y a d'un côté, pour les développeurs qui nous écoutent, c'est de vous faire découvrir un petit peu eh ben, vos homologues. Voilà, les gens qui travaillent dans d'autres entreprises que même peut-être vous ne connaissez pas. Et pour nos auditeurs qui sont des joueurs, des consommateurs ou qui ne sont pas dans l'industrie du jeu vidéo tout simplement, c'est de vous faire justement découvrir toutes ces personnes qui travaillent pour essayer de vous apporter un petit peu du plaisir au travers de nos jeux. Aujourd'hui, premier épisode, pilote un petit peu, où je reçois Martin Dinet, qui est un game designer à Ubisoft Annecy. Et vous allez voir, je pense que c'est un très bon épisode pour lancer ce podcast. Ça va vous donner une très bonne vision sur ce qu'on peut y faire, les sujets qu'on peut y aborder. Alors vous allez voir que dans notre entrevue, les thèmes qu'on a abordés ont été assez larges. On est passé de sa carrière aux formations spécialisées, passant par sa relation avec ses autres collègues, ses goûts en jeu. Mais je vais vous laisser découvrir tout ça immédiatement. Attention, c'est parti. Donc on commence immédiatement cet épisode avec Martin Dinet. Donc Martin Dinet qui nous vient d'Ubisoft Annecy et qui est game designer. Bonsoir Martin.
Salut.
Merci d'être le premier à essuyer un peu les plâtres du pilote de Meet the Dev.
Bah de rien,
J'espère que t'as
de
pas
rien,
trop
ça
la
fait plaisir.
pression, moi un petit peu, je t'avoue. Donc Martin, hein, encore une fois, le principe de l'émission, on va repasser un petit peu sur ta carrière, on va voir un petit peu ce qui te plaît dans ton travail de game designer, les projets sur lesquels tu as travaillé, ton avis un petit peu sur l'industrie. On a décidé d'essayer d'axer un petit peu notre avis, ton interview sur les formations spécialisées, l'autodidacte ou comment démystifier un petit peu l'entrée dans le jeu vidéo. Et ensuite, on finira par une série de questions que je poserai à tous mes invités. Alors, je vais te poser les trois premières questions, un peu larges, pour parler de ta carrière. Martin, qui es-tu? D'où
Ok.
viens-tu? Et que fais-tu?
du coup, je m'appelle Martin Dinet, comme tu as dit. J'ai 31 ans. Ça fait maintenant 5 ans à peu près que je suis professionnel dans l'industrie. Avant ça, j'ai fait 2 ans de formation spécialisée dans une école de game design qui s'appelle Super Infogame. Donc, on va dire que ça fait un peu, ouais, 7 ans que je m'intéresse au game design. Et du coup, sur mes 5 ans de professionnel, j'ai fait 6 mois de stage à Game Loft New York pour commencer ma carrière. Et après, j'ai enchaîné sur Ubisoft Annecy en tant que game designer où je suis depuis 4 ans et demi maintenant et où j'ai pas bougé depuis. Voilà.
4 ans et demi, c'est que tu t'y plais.
Oui, ouais, je compte bien. Pour l'instant, je m'y plais et je compte bien y rester pendant un petit peu de temps encore.
Du coup, c'est intéressant de voir que tu es passé par différents profils qui vont être intéressants, hein, c'est-à-dire du mobile, du jeu console, et de l'expatriation et du travail en France. C'est peut-être des
Ouais.
choses qu'on pourra aborder aussi ensemble. Donc j'imagine, est-ce que ce que tu as fait à Gameloft, c'était dans des grosses équipes ou une petite équipe?
Ouais, c'était Gameloft. Donc Gameloft, enfin c'était, ça a un peu changé maintenant, mais la boîte sœur de Ubisoft. Donc ça restait des grosses équipes pour du mobile. Ça reste des petites équipes à l'échelle du jeu vidéo AAA, hein, parce qu'on faisait pas non plus des énormes projets à 200, 300 comme des gros studios peuvent le faire. Mais on était une équipe de 60, 70, je crois, si je dis pas de bêtises. Pour du projet mobile, c'est quand même pas mal.
C'est quand même énorme.
Ouais, clairement. Et puis bah on bossait sur des grosses licences, hein, Game of New York. Bon, le jeu sur lequel j'ai bossé en arrivant, c'était un jeu en fin de production, mais c'était un twin stick shooter avec des zombies. Donc c'était assez ambitieux. Et le jeu sur lequel j'ai commencé de bosser vraiment en pré-production à la fin de mon stage, c'était un jeu mobile sur la licence Cars de Disney Pixar.
Ok.
Donc une grosse licence avec une grosse pression sur les équipes. C'était intéressant en fait. C'est comme t'as dit, il y a des choses très intéressantes à comparer entre l'industrie du mobile et l'industrie du triple A. Hein. C'est pas du tout la même chose.
Ben on pourra y revenir après. Donc du coup, ça c'est ta première expérience professionnelle dans l'industrie, ou est-ce qu'il y en a eu une avant?
Alors, première vraie expérience formatrice, on va dire, mais avant j'avais fait quand même 2 ans de formation où on est confronté à de la professionnalisation, vu que c'est des écoles qui sont en lien
Spécialisé, ouais.
avec pas mal de professionnels, donc on a des projets qui sont encadrés par des professionnels avec des contraintes assez proches du monde professionnel du jeu vidéo quand même. Ça reste encadré par l'école, mais j'ai eu à travailler avec des boîtes françaises comme MXP4 qui n'existe plus maintenant, mais 3D Duo par exemple, qui est une boîte qui existe toujours à Valenciennes ou à Lille, je sais plus où ils sont, enfin bref, dans le Nord. J'ai eu à travailler avec Big Fish, qui est une grosse entreprise de production de. Je ne saurais pas trop comment les qualifier, mais des espèces de jeux. Leur but c'est de sortir un jeu par jour pour la ménagère de 50 ans, donc c'est voilà, c'est un peu spécial, mais c'est intéressant. Voilà, on a été confronté à ça. Et j'ai fait un stage de 9 semaines avec un projet mandaté par l'armée de l'air
D'accord.
sur mobile. Et on était en totale autonomie à 10-12 étudiants. On a dû faire un jeu sur mobile en 9 semaines.
D'accord, donc là vous étiez quand même à côté, il y avait quand même des livraisons à faire, un projet
C'est
à
ça.
délivrer quoi.
C'est ça, et on était vraiment livrés à nous-mêmes en fait. On était étudiants, moi ça faisait juste un an que j'y étais. Le chef de projet c'était un mec de ma promo, c'était que des gens de ma promo. J'ai dû faire, on a développé le jeu sur iOS, c'est moi qui ai dû faire le portage Android tout seul dans mon coin en une semaine en autodidacte. C'était rigolo. Mais ouais, ça t'apprend des trucs quoi,
Et du
ça
coup,
te rend
est-ce qu'à
professionnel
ce
quoi.
moment-là, sur ce projet en particulier, vous aviez un encadrement par des pros, ou est-ce que vous étiez
Ouais.
avec des mecs de l'armée, ou est-ce que vous étiez, je sais pas, dans un bureau à l'école ou dans un studio chez quelqu'un?
Alors on était dans un bureau à l'école, enfin on était dans une salle prêtée par l'école avec tout le matos pour les prêté par l'école. Comme c'était sur iOS, il fallait des Mac et des licences développeurs Apple, etc. Tout ça fourni par l'école. On avait un cahier des charges fourni par l'armée de l'air, mais qui était relativement vague, ils étaient relativement ouverts sur le truc. Et on était encadré régulièrement par l'équipe pédagogique de l'école, donc de Super Info Game, qui était quand même là pour s'assurer qu'on restait quand même des étudiants qui étaient assez novices, et ils s'assuraient quand même qu'on ne faisait pas n'importe quoi. Mais on était quand même assez libre. Et on a eu un ou deux professionnels qui sont venus nous aider. Je crois qu'il y a, je me souviens pas des autres, mais je suis sûr qu'il y a Marc Hommel de Arcane qui est passé nous voir
D'accord.
pour voir un peu ce qu'on faisait. Donc ça fait quand même toujours plaisir d'avoir un directeur de studio comme ça qui se déplace pour venir voir ce qu'on fait alors qu'on est des petits étudiants dans notre coin quoi. Donc ça
Ouais,
c'était
bien
cool.
sûr. Et donc après, Gameloft, et comment t'arrives à entrer, à mettre le pied dans Gameloft, du coup à New York?
Ah, ça c'est le grand, enfin le grand dilemme, grand problème, je sais pas comment présenter ça, du lien très fort entre les écoles privées et l'industrie du triple A, y compris dans le mobile, hein, parce que je considère Gameloft comme du triple A mobile.
Ouais, carrément.
Je suis rentré chez Gameloft New York parce que historiquement, bon, malheureusement le studio a fermé il y a quelques années, mais historiquement quand j'étais à l'école, ils prenaient en stage tous les ans 2-3 personnes de chaque promo. Et on passait un concours et j'ai été retenu suite à ce concours pour être pris là-bas. Donc en fait, ils réservaient des places à chaque promotion de Super Info Game chez Gameloft et c'est une super opportunité pour moi. Mais ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas l'opportunité, voire même n'a pas les moyens, parce que c'est très cher Super Info Game, ces gens-là n'ont pas l'opportunité de rentrer dans des boîtes comme Gameloft.
Ouais, bien
en
sûr.
Game design, ils prenaient que des gens de SupinfoGames, hein, Gameloft de New York. C'était que ça, quoi.
Dû à la renommée et au lien avec l'école, quoi.
Ouais,
c'est un peu du réseautage,
exactement.
du coup.
Bah, c'est du réseautage parce
d'entreprise,
que.
ouais.
Ouais, exactement. La renommée, l'école fournit des gens qui sont très compétents. Enfin, certains en tout cas. Mais c'est surtout du réseautage en fait. Ça marche pareil avec Ubisoft. Hein. Ubisoft prend tous les ans un certain nombre de personnes, encore plus nombreuses, et je crois qu'ils sont 7 ou 8 tous les ans à rentrer chez Ubi. Et ouais, c'est juste des liens très forts entre les écoles, donc ça dessert un peu les autres. Il y a des gens très compétents qui sortent d'autres formations, pas forcément d'écoles privées, hein, d'universités, tout ce qui est plus public en game design, qui sont très compétents, quoi.
D'accord. Et du coup, alors parlons un peu de cette expérience à Gameloft. Donc, tu travailles sur des jeux à licence. J'ai toujours été curieux, parce que j'ai toujours pas fait ça, mais j'ai toujours été curieux du lien, du travail qu'il y a eu à faire et de la relation avec les propriétaires des licences
Ouais.
sur ces
Alors
jeux-là,
ça passe.
particulièrement sur du mobile où il y a peut-être un modèle économique ou des choses que le propriétaire de
Ah
la
ouais.
licence te laisse pas faire.
Alors ça, pour Cars, on était assez, au final, assez libre, parce que Disney avait déjà une relation de confiance avec Gameloft. Hein. Il y avait d'autres jeux qui étaient sortis avec où ils avaient déjà prouvé qu'ils savaient gérer des licences. Il y a eu, alors c'est pas Disney, mais il y a eu un Spider-Man juste avant que je fasse Cars. Le studio était réputé à cause de l'âge de glace. Ils avaient fait un jeu l'âge de glace qui marchait très bien. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme puissance? Je suis sûr d'en oublier une. Enfin bref, ils touchaient à du Marvel, ils touchaient à du. Avant que ce soit Disney, ils touchaient à plein de trucs comme ça. Donc je pense que le studio avait la confiance des marques. Tout ce qui est modèle économique, le studio était quand même rodé là-dessus. On avait des documents de l'édito qui étaient très solides. Donc, je pense que ça rassurait les marques. J'ai pas le souvenir qu'on ait été très bloqué là-dessus, je
D'accord.
dois avouer. Après, j'ai eu que le début de la production, hein. J'ai fait la pré-prod et la conceptualisation. Donc j'ai pas été soumis à tout ce qui est contrainte avec des. Par la suite, avec les productions, avec sûrement des validations à faire avec eux, ce genre de choses. J'y ai été plus soumis sur le travail que j'ai fait après à Ubisoft avec les Jeux Olympiques sur Steep, dont on pourra reparler après.
Ouais, carrément. Bah du coup, justement, après cette période à Gameloft, donc tu décides de partir de Gameloft pour revenir en
Ouais.
France, du coup.
Ouais, ça c'est une décision purement personnelle.
D'accord.
J'aurais pu avoir l'opportunité de rester là-bas. Leur but, c'était pas de me faire venir 6 mois en stage là-bas, parce que c'était, faut le dire, hein, c'était New York. C'est une ville qui est extrêmement chère.
Ouais, et du coup,
Où...
d'ailleurs, comment ça se vit l'expatriation là-bas à New York, vite
c'est
fait?
spécial. Alors, au sein de Gameloft, ça pose pas de problème parce que c'est un studio. C'était un studio, malheureusement ils ont fermé. C'est un studio très français, très franco-français. Le
D'accord.
directeur de studio était français, mon lead était français. Les designers avec qui je travaillais venaient de SupinfoGames, ils étaient français. Je les connaissais même d'avant, pendant la formation. Au boulot, t'es pas dépaysé. En plus, j'y suis allé en colocation avec un collègue de ma promo. On était en coloc et au boulot ensemble. Donc ça, c'est pas très compliqué. En plus, ma femme, qui était bon, ma copine à l'époque, mais m'a suivi pendant 3 mois sur les 6 mois là-bas. Donc ça va, le déracinement n'était pas très excessif.
D'accord. Une petite enclave française au sein de New York, quoi.
C'est ça. Par contre, la vie là-bas, c'est autre chose. Le boulot à l'américaine, c'est autre chose. La moitié du studio était quand même américain, hein, c'était pas que des Français. C'était pas du tout le même esprit de travail. Il y a des choses très positives, il y a des choses très négatives. Leur rapport au travail est très intéressant, hein. C'est 17h, tout le monde est parti, hein. C'est pas comme en France où on te regarde de travers si tu pars avant 18h, quoi. Là, ils vivent leur vie à côté, ils font leur boulot comme il faut, mais dans les horaires, quoi. C'est un modèle à l'anglo-saxonne, c'est très intéressant de confronter
Ok, d'accord. Bah, tu vois,
les deux
c'est pas
cultures,
du tout
quoi.
ce que je m'imaginais. Je m'imaginais plutôt des mecs qui crunchaient tout le temps.
Ah
Après,
non,
c'est
ça
peut-être
va,
une
franchement, ça va.
spécificité du jeu mobile, non? J'ai l'impression qu'on crunche beaucoup moins dans le mobile.
Ouais, parce que les contraintes sont moindres, parce que c'est plus maîtrisé. Gameloft, c'est quand même des jeux qui sont très dans un modèle précis, très calibré. Donc les mecs, ils savent sur quoi ils partent en fait. Les producteurs, ils ont un budget qui est quasiment établi pour chacun des jeux. Enfin, ils ont juste à recoller leur modèle sur le jeu suivant, quoi.
Ouais,
Ça
disons
a
qu'il y a
ses
moins, il y a moins de
défauts.
surprises, quoi.
Ouais, c'est ça. Ça peut avoir ses défauts au niveau des joueurs, mais par contre, dans les risques que tu prends en prod, c'est plus simple, quoi.
Ok. Et du coup, donc retour en France.
Ouais.
Comment tu trouves ce job à Annecy? C'est de la chance.
Alors du coup, ouais, retour en France. Donc du coup, par choix personnel, comme j'ai dit, parce que je voulais retourner en France pour rester avec ma femme,
La
qui était ma
famille,
copine
ouais,
à l'époque.
ça se comprend.
Voilà, on était ensemble depuis 7 ans à ce moment-là. On avait déjà fait 2 ans, plus ou moins en relation à distance, parce que moi j'étais parti faire des études à Valenciennes pendant qu'elle était restée. Là, on s'était connus à Dijon, donc à 500 km de distance. Là, ça faisait plusieurs mille kilomètres de distance. Les 3 mois sans elle là-bas ont quand même été extrêmement compliqués. Voilà, décision personnelle de rentrer. Elle était originaire d'Annecy, donc elle voulait retourner finir ses études sur Annecy. Le hasard des choses a fait que, alors attention, ça va être une histoire un peu alambiquée et compliquée. On va revenir un peu en arrière. Première à Superinfo Games, on fait des semaines intensives. Les semaines intensives, c'est des projets qui sont mandatés par des boîtes qui nous donnent une semaine, enfin 5 jours en vrai. C'est une espèce de grosse game jam. En équipe de 6, il faut qu'on se fournisse un proto de jeu. C'était justement la collaboration avec 3D Duo et Big Fish, où on a fait un projet de match 3, donc de Candy Crush, on va dire, avec un petit twist de mécanique. Et le meilleur proto était retenu pour être développé par 3D Duo pour Big Fish. Et en cadeau, l'équipe se voyait payer un voyage à la GDC à San Francisco.
D'accord.
La GDC, c'est la
Donc
Game
plutôt
Developer
pas mal.
Conference. Voilà, plutôt pas mal exactement.
En tout
Donc
cas,
la
quand
Game
t'es
Developer
étudiant et que t'as pas la
Conference.
notion de des achats de licences qu'il peut y avoir, t'es plutôt content, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, c'est un voyage assez cher pour eux, et du coup, ouais, c'était assez cool.
C'est une
Et
petite
donc, du coup,
compensation par rapport au contrat qui peut être signé, quoi.
ouais, c'est clair. Du coup, on a été envoyé là-bas. Pas toute l'équipe, malheureusement. C'était que 2 personnes par équipe, donc on a dû tirer au sort. C'est tombé sur moi, donc c'était de la chance. C'était cool, très bien. Parce que le fait que mon projet soit pris, c'était pas de la chance. Hein. Donc, mine de rien, on avait bossé comme des cons et on avait fait un truc
Ouais, mais on la provoque
plutôt
la
bien
chance, comme on
fait.
dit. Hein.
Oui, c'est ça, on l'a provoqué, exactement. Et du coup, à San Francisco, je vais à la GDC, je vais voir des conférences, et en sortant d'une conférence de Sid Meier, je m'en souviens parce que j'ai vraiment kiffé voir Sid Meier m'expliquer sa vision du game design. J'ai aucun souvenir de ce qu'il m'a raconté, je sais juste que c'était fantastique. J'étais au premier rang et tout, c'était kiffant, enfin bref. Et du coup, je descends de la conf par un escalator, et je discutais avec mes collègues de promo là, et il y a un mec qui me tape sur l'épaule derrière dans l'escalator et qui me dit en français, « Hey, mais vous venez de Superinfo Games en fait ?» Parce que c'était écrit sur mon badge. Et j'ai dit, bah ouais, je viens de Superinfo Games. Il dit, ah, bah moi aussi, j'ai fait mes études là-bas. Ok, étonnant. Le hasard fait bien les choses. Et donc, en discutant un peu avec ce mec-là, il nous invite tous à aller boire un coup. Parce que il voulait discuter un peu avec des game designers de Superinfo Games, s'il était en recherche justement de gens pour avancer sur le multijoueur d'Assassin's Creed, parce que ce mec-là, c'était Sébastien Lafoutrie, game designer à Ubisoft Annecy, qui
D'accord.
a bossé sur tous les Assassin's Creed multijoueurs. Et donc on a beaucoup discuté pendant avec des bières, ça aide vachement.
Ça,
C'est un mec du Nord en
les
plus.
conférences et les boissons, c'est toujours une aide, hein, dans
C'est
les
toujours une aide,
relations.
c'est sûr. Ouais. Et du coup, voilà, on discute. Moi, le multijoueur, à l'époque, le multijoueur compétitif, c'était quand même pas un truc. C'était en 2000, début 2012. Hein, c'était en train de démarrer. Ça avait pas explosé comme ça l'est à l'heure actuelle. Hein, tout ce qui est, on parlait pas encore d'e-sport, etc. Mais le multijoueur d'Assassin's Creed commençait à se faire une toute petite place, commençait à se faire un peu connaître. Et moi, ça m'intéressait vachement. Le multijoueur compétitif, c'est vraiment mon grand dada. C'est vraiment ce que j'adore regarder, faire, etc. Maintenant, j'ai plus trop le temps d'en faire, mais j'adore regarder ça. Et je trouvais celui d'Assassin très intéressant. Et du coup, j'ai cette chance de tomber sur ce mec-là. je discute avec lui et on garde contact et il me dit ce que tu m'as dit me plaît beaucoup et j'aimerais beaucoup te recruter. Donc déjà j'ai mon pied dans la porte.
Plutôt pas mal.
Début 2012, voilà. Et ça c'est un truc qui est très important et qu'il faut que les gens retiennent. Le jeu vidéo c'est une entreprise qui est toute petite et le moindre contact il faut le garder, il faut mettre son pied dans la porte. C'est super
ouais, ça,
important.
C'est souvent
en fait, moi,
quelque
cette
chose
rencontre
qu'on
avec ce mec là
ouais.
à San Francisco, c'est ça qui me fait rentrer à UBNC quasiment 2 ans plus tard quoi. Donc
D'accord.
c'est extrêmement important quoi. Donc je garde contact avec ce mec là, je postule régulièrement à Ubisoft NC, j'avais postulé pour un stage là-bas avant d'être prêt à Gameloft, j'ai repostulé pour un emploi, etc. Enfin bref. Donc je sors de Gameloft New York, j'ai pas d'opportunité. Enfin je passe des entretiens pour Gameloft Madrid, je passe des entretiens pour Ivory Tower à Lyon par exemple.
Ouais,
Ce
donc
genre
tu
de
le
choses.
retrouves, tu te retrouves pas un emploi immédiatement quoi. Il y a quand même une
Non.
période de recherche,
C'est ça.
période difficile. Comment, enfin, juste je pense que c'est une question que je vais retrouver souvent chez les gens par laquelle je suis passé moi-même. Est-ce que c'est quelque chose que tu vis bien? Parce que c'est pas forcément facile à vivre.
Non,
Est-ce que tu fais
tu le
des
vis pas bien.
projets? Qu'est-ce qui se passe à ce
Ouais.
moment-là?
Ouais, tu le vis pas forcément bien. Moi, j'avais la chance de pouvoir habiter chez ma copine, qui me logeait et qui me nourrissait aussi parce que j'avais pas, revenant des États-Unis, j'avais pas eu de salaire aux États-Unis, donc j'avais pas le droit à du chômage, etc. Enfin, j'avais un salaire aux États-Unis, mais qui marchait pas en France, donc j'avais pas le droit au chômage, etc. Là où c'est rigolo, c'est comme t'as eu un salaire aux États-Unis, pour les impôts, ça marche par contre. Ça, c'est, voilà. Ça marche pas pour le chômage, mais pour les impôts, ça marche. Bref. Du coup, elle a pu me loger, etc. Mais ça reste quand même pas simple. J'ai essayé de faire des projets avec des potes, plusieurs. C'est cool, hein, mais sans la motivation derrière, je pense que ça a été une de mes erreurs, c'est de pas réussir à me motiver suffisamment à faire aboutir ces trucs-là. J'étais trop confiant sur le fait que j'allais retrouver un boulot tout de suite. Mon contact à UBNC, ça, j'étais quasi convaincu que j'allais trouver un emploi tout de suite. Et ouais, non, c'est pas une période facile. Le chômage dans le jeu vidéo, c'est très très décourageant et malheureusement, ça arrive extrêmement souvent. C'est pas une industrie de plein emploi. Et je veux
Ouais, je
pas
pense.
être trop négatif là-dessus, je reviendrai là-dessus plus tard quand j'aurai fini mon histoire, hein, parce que je voudrais pas décourager les gens non plus, quoi.
Non, non, bien sûr. Mais je pense que c'est un truc qui est assez récurrent
Ouais, faut pas
chez les
se, en
gens.
fait, faut pas se voiler la face et faut pas se laisser avoir par les chiffres promis
Tout à
par
fait.
les écoles qui
Tout
te
à fait.
vendent 95% de taux d'emploi à la sortie, ce genre de truc, quoi.
Et donc, au final,
C'est
ce
compliqué.
contact, au bout d'un moment dans cette période, te permet de rentrer à UBNC, donc.
Alors, ouais, mais ça a été fait ça a été
Ça a pas
compliqué,
l'air
ça a
si
été fait en deux
simple.
fois. Ouais, non, parce qu'en fait, du coup, je rentre tout début de 2013, et en mai 2013, il y a une offre d'emploi pour un game designer junior à Ubisoft NC qui paraît. Donc là, je me dis, ok, c'est bon, c'est l'occasion en or. Je postule, je construis mon truc bien solide, je pars pas déjà vainqueur, hein, je mets un CV solide, une lettre de motivation solide, je mets la référence de Sébastien dans le truc, etc. Et donc, je passe l'entretien téléphonique. Tout se passe bien, je suis retenu. On n'est que deux à être retenus pour passer un entretien sur place, moi et un pote de promo. Ce pote de promo était avec nous à la GDC, a
Ah.
discuté avec Sébastien Lafoutrie et lui a dit texto, moi les assassins, ça m'intéresse pas, je veux pas bosser avec vous.
Ah.
Donc là pour le coup je partais vraiment vainqueur. Donc je réitère ce que je disais, le jeu vidéo c'est une toute petite industrie, faut faire très attention aussi à ce qu'on dit aux gens. Faut pas brûler les ponts en fait. Ce pote-là de promo qui maintenant est chez Ubi d'ailleurs et qui est
Sur
très bien chez
Assassin.
Ubi. Non, non, il est sur Division. Il est sur The Division. Il s'est cramé tout seul en fait. Il avait son entretien, etc. Mais en y allant en fait, il s'est retrouvé à l'entretien face à Sébastien qui lui a dit, mais je te reconnais, toi, t'es le gars qui voulait pas bosser sur Assassin. Voilà, bon, ouais. C'est mort quoi. Faut vraiment faire gaffe à ce qu'on dit dans le jeu vidéo. Faut pas se cramer les portes.
Ok,
Bref, du
donc
coup, je vais
t'arrives
à
sur
l'entre.
Assassin, et donc le passage sur une licence comme ça, ça fait quelque chose, surtout on est du coup quoi, en 2013, 2014, quelque chose comme
Ouais,
ça,
alors du coup,
2015?
ça met du temps. En fait, je vais écourter l'histoire, mais en gros, je suis recruté que début 2014. En fait, il y a eu plein de changements dans leur scope et dans leurs besoins de production. Et en gros, bon, ils ont retenu mon profil, mais ils n'ont pas eu besoin de moi tout de suite. Donc au final,
Ok.
j'ai été recruté chez Ubisoft Annecy après 15 mois de chômage.
Ok. Donc
Et
longue
donc,
période quand même.
8 mois après ma première postulation. Donc,
Ok, ah ouais.
voilà, ouais. Donc j'ai passé 8 mois à me tourner les pouces en me disant, UBNC m'ont dit qu'ils me prenaient, mais ils m'ont dit d'attendre qu'ils aient besoin de moi. Et ça, c'est pas facile, quoi. Parce que du coup, tu te dis, est-ce que j'essaye ailleurs? Est-ce que ma femme, maintenant, elle est bloquée dans ses études pour au moins 3-4 ans sur Annecy? Est-ce que je prends le risque de repartir sur Paris, sur Lille, sur Bordeaux, à l'étranger? Parce que ça, c'est un des gros problèmes du jeu vidéo aussi en France, c'est qu'on est très limité en termes de secteur.
C'est-à-dire, ouais, à chaque fois, c'est une stat que je rappelle souvent, mais selon l'AFJV ou le SNJV, je sais jamais, c'est 75% des boîtes du jeu vidéo qui sont à Paris, quoi.
C'est ça, exactement.
Ça laisse pas beaucoup de place pour le reste des
Et quand tu
régions.
pars en dehors de Paris, tu vois, moi, si je visais Annecy, j'ai UBNC et c'est tout, en fait. Il n'y a rien d'autre. Après, c'est sur Lyon, et sur Lyon, il y a Arcane, il y a Ivory.
Ouais, il y a
Ça dépend de ce que tu
une
veux faire
dizaine de
aussi.
petits studios, quoi.
C'est ça, il y a une dizaine de petits studios. Moi, c'était vraiment le triple A qui m'intéressait. Faire du petit studio, vraiment, c'était pas pour moi. Je voulais faire du triple A, et en plus, je voulais faire du multijoueur compétitif. Donc, vraiment, UBNC, c'était l'énorme opportunité.
Alors
Enfin bref, du
justement,
coup,
je diverge
j'arrive
deux
à UBNC,
secondes.
quoi.
Qu'est-ce qui t'attire justement dans cette idée d'être sur le triple A et d'être dans une grosse équipe?
Alors, être dans une grosse équipe, c'est que tu rencontres énormément de gens différents, qui ont des points de vue différents. Moi, j'aime bien qu'on remette en cause mes convictions et mes avis arrêtés. J'aime bien être confronté à l'avis AVIS et l'avis VIE des gens. J'aime bien m'immerger dans les expériences de personnes différentes, etc. Et plus t'as une grosse équipe. Alors, faut quand même garder une équipe à taille humaine pour pouvoir discuter avec eux. C'est pour ça que le studio d'Annecy, c'est un bon compromis. Parce qu'on est une équipe qui est à 100, 120. Enfin, il y a deux jeux, deux projets en cours, mais ça reste des équipes à 100, 120. Donc, tu peux quand même connaître tout le monde et discuter avec tout le monde. Et ça, c'est trop cool. Enfin, pour moi, en
Ok.
tout cas. Rester coincé 3 ans avec les 6 mêmes personnes, c'est moyen pour moi, quoi. Et
Ok.
le triple A, c'est tout simplement. Ça, je
Est-ce que
pense que
c'est
c'est
un
purement
goût de joueur?
c'est de l'égocentrisme en fait, c'est de savoir qu'il y a énormément de joueurs qui voient mon travail en fait.
Ok, d'accord.
C'est une forme de challenge aussi personnel, c'est de confronter mes capacités de design et ce que je peux fournir comme fun dans un jeu au plus de monde possible. En fait, ça c'est ce qui me fait kiffer, quoi.
Ouais, ok. Et puis je me doute qu'au moment où tu fais ce choix-là aussi dans l'industrie, je sais pas si ton avis a changé là-dessus, mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément une bonne vision du mobile et de l'industrie du jeu mobile à ce moment-là, où on
Ouais.
voyait ça comme le petit frère pauvre du jeu console, le petit bâtard sur
Ouais,
lequel
alors.
personne veut travailler, quoi.
Ouais. Alors, je pense qu'on peut faire des très bons jeux sur mobile. Il y a des très bons jeux sur mobile. Il y en a énormément. Mais malheureusement, pas forcément dans des grosses boîtes, en fait. Gameloft, c'était bien en termes d'entreprise, enfin en vie dans l'entreprise. Par contre, en termes de jeux, ce qu'on produit. Ouais, non, ça me faisait pas rêver. Moi, ce que je veux, c'est confronter mon jeu à plein de joueurs pour qu'ils s'amusent, pas pour leur gratter de la thune non plus, quoi. C'est pas trop ce qui m'intéresse.
Ouais, carrément. Non, mais c'est une vision qui est compréhensible. Du coup, Assassin, t'arrives rapidement. Qu'est-ce que tu prends comme responsabilité sur le multi d'Assassin? Ou est-ce que
Alors,
t'arrives
aucune,
sur le multi
parce
d'Assassin
que
en fait?
au moment où je signe mon contrat, où je signe mon NDA, donc mon Non-Disclosure Agreement, donc le contrat qui fait que je ne peux pas dévoiler sur quoi je bosse,
D'accord.
au moment où je signe ça, donc après, ouais, peut-être, je sais pas, 3 heures à UBNC, on me dit, eh ben maintenant on va te parler sur quoi, on va te dire sur quel projet t'es sur Assassin, c'est la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle, c'est que le multi, il a été cut
Ah
il y a quelques semaines.
merde!
Donc, voilà, je tombe un peu dénu, je suis un peu dégoûté, mais en même temps je suis dans le studio que je voulais, avec les premiers contacts qui se passent très bien, et puis au final on a pour mission de faire un mandat sur Assassin's Creed Unity, celui sur la Révolution
Ouais,
française,
ok.
donc un cadre plutôt sympa, enfin sympa, intéressant en tout cas travailler dessus, c'était pas non plus... Voilà. Et notre mandat, c'est de pour Montréal, c'est Montréal qui bosse sur le jeu principal, et nous à Annecy on devait faire le ce qu'on appelle la villa, enfin le café théâtre, donc le player space
Ouais,
en anglais,
ok.
donc l'endroit où la maison du joueur, on va dire, avec plein de salles, avec plein de fonctionnalités. Et en gros, j'arrive dessus et on me dit voici le senior game designer qui a dégrossi toutes les features en phase de conceptualisation, mais on a besoin de lui sur un projet top secret. C'est toi qui vas récupérer toutes les features, plus deux, trois autres petites que tu vas devoir
Ok,
designer tout seul.
cool,
Donc direct
impressionnant
en... C'est
comme
ça.
prise de poste du coup.
Directement junior, on me colle dans les mains la responsabilité de tenir la production. Pas forcément de faire la conceptualisation, parce que ça c'était déjà fait. J'ai quand même eu la conceptualisation d'une ou deux petites fonctionnalités, mais en tout cas de tenir la production de la plupart des fonctionnalités de ce player space. Donc si vous jouez à Assassin's Creed Unity et que vous allez dans votre café théâtre et que vous jouez dans les salles, etc., la plupart du temps ce sera des fonctionnalités que j'ai eu à gérer en design. Voilà, ça c'est pour le petit que
Non
vous
mais t'as
voyez un petit
raison,
peu ce que
il faut
j'ai
savoir
fourni
se
comme métier.
satisfaire de ce qu'on a fait aussi, hein.
C'est ça. Non, puis c'est cool que les gens puissent se rendre compte un peu
De
de ce
qui
que
fait
je fournis
quoi,
comme
ouais,
boulot,
carrément.
etc. C'est extrêmement formateur. C'est 6 mois de boulot, c'est 4 fois moins que ce que j'ai fait à l'école, vu que j'ai fait 2 ans. J'ai appris 1000 fois plus en 6 mois qu'en 2 ans d'école. Les gens auront beau aller dans toutes les écoles de game design de la Terre, payer des milliers d'euros pour leur formation. Les 6 premiers mois de prod, c'est une claque monumentale dans la face, tellement tu apprends de choses et ça change ta vision d'à peu près tout, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Et du coup, à ce moment-là, est-ce que tu as encore vu que le senior est parti sur l'autre projet, est-ce que tu as encore quelqu'un qui te suit? Est-ce que tu es encore encadré ou
Ouais.
est-ce que tu es toujours livré à toi-même? Quand même livré à toi-même.
Alors cette personne-là, le senior Arnaud de son prénom, m'a quand même continué à m'encadrer. Je le considère toujours un peu comme mon mentor game designer. D'ailleurs, à
D'accord.
l'heure actuelle, 4 ans et demi après, je suis sur le même projet que lui et il est assis à côté de moi et on s'échange tous les jours sur nos features. Donc il n'est jamais très loin. Non, il continuait à suivre ce que je faisais. Et puis j'avais aussi le support des autres game designers qui étaient là depuis 2 ans et 4 ans, si je dis pas de bêtises, dont un qui venait de Supinfogame aussi, donc on avait quand même des affinités, des choses en commun. Donc non, l'équipe était très soudée, on a tout de suite eu le support et le mentoring des autres game designers. D'ailleurs, c'est quelque chose que je me suis attelé à. Enfin, c'était vraiment important pour moi de continuer à faire ça pour les autres. Sur le projet sur lequel je travaille à l'heure actuelle, il y a deux autres game designers qui sont juniors, qui sont arrivés il y a 1 an et demi et un an.
Ouais.
Et j'essaye de faire la même chose, en fait, de les encadrer autant que possible et de les aider autant que possible.
Ouais, c'est important aussi la transmission de connaissances, cette formation.
Ouais,
Et donc du
exactement.
coup, directement après ça, donc le c'est ce Unity sort et tu passes sur le. Est-ce que tu passes sur le même projet
Je passe sur non, je passe sur The Division.
D'accord.
Du coup, Ubisoft Annecy récupère, ayant perdu le mandat, enfin pas perdu, mais le mandat Assassin's Creed de multiplayer ayant été cut, le studio a quand même besoin de trouver une licence phare et un peu de mettre son expertise au profit d'un autre projet ambitieux. Et donc arrive The Division, tout juste annoncé par Massive, qui est un truc très ambitieux, hein, donc. On le rappelle, une espèce de TPS avec les 3C, un peu de Mass Effect, mais avec des systèmes de RPG à la Borderlands, avec des loots dans tous les sens, très inspiré de Diablo, avec des donjons très inspirés de World of Warcraft,
Ouais,
dans
ouais.
un univers réaliste Tom Clancy, dans un New York dévasté, enfin un truc monstrueusement ambitieux. Et donc on récupère un mandat, encore une fois, on n'est pas honneur sur la. Enfin, on n'est pas. Désolé, injustice des anglicismes, je vais essayer de me reprendre.
Non, t'inquiète pas, je pense que les gens pourront comprendre.
On n'a pas de responsabilité sur le projet principal, mais ils nous filent un mandat. Et moi, je m'occupe du mandat, du coup, de l'IA et des interactions des civils non combattants dans le world. Enfin,
D'accord.
dans le monde du jeu. Donc, en gros, de comment les civils, les NPC non combattants, réagissent aux inputs, enfin, aux actions du joueur.
D'accord.
Voilà.
Donc
Pendant à peu près un an, j'ai
quand
fait
tu
ça.
pointes ton arme, ils ont une réaction, par exemple.
Exactement, c'est ça. C'est ça. Donc ça va à des trucs très basiques de qu'est-ce qui se passe quand on le tire dessus, qu'est-ce qui se passe quand on le braque, quelles sont leurs réactions quand tu les libères dans une mission, etc. Chose très rigolote, du coup, si vous jouez à The Division, vous saurez que toute l'IA des civils dans la rue a été faite par moi et par les collègues, bien sûr, animateurs, programmeurs, etc. On n'est jamais tout seul en game design, hein, évidemment. Et certains ont ma tête. En fait, de la capture des visages des gens de la prod, la plupart des NPC non combattants dans The Division ont la tête des gens de Ubisoft Annecy.
D'accord.
Et j'ai fait la front page de Kotaku, du coup.
C'est vrai.
Kotaku a fait un article sur ces civils qui sont relous à toujours être emprisonnés, et c'est moi qui suis en front page. c'est amusant.
Ouais. Ah, très très bonne anecdote. Et du coup, là, t'es sur un poste avec des tâches qui sont plus techniques.
Ouais, c'est du...
Là, tu vas toucher du behavior tree.
On est dans le moteur, on est dans Stone Drop, on fait ce qu'on appelle du behavior tree, donc du l'arbre comportemental. On a des petits blocs qu'on relie entre eux. C'est des blocs avec des instructions qui vont du très basique, du genre... Enfin, juste des trucs binaires, hein, if, and, or, tous ces trucs-là, à des blocs beaucoup plus complexes, comme la gestion de la menace, la gestion, lancer des animations, lancer des sons, etc. Et on construit ça. Voilà.
D'accord. Donc, expérience intéressante, auquel t'étais pas du tout formé avant, quoi. Faut le dire.
J'étais pas formé, mais j'avais quand même des affinités avec ça parce que je viens d'une licence en informatique avant de faire du game design, donc je savais programmer. Pendant ma formation à Super Info Game, on n'avait pas de programmeur à l'époque. Maintenant, ils en ont, mais là, quand j'y étais, on n'en avait pas. Il fallait qu'il y ait un des game designers qui se dévoue pour faire la programmation des jeux, des protos, et c'est moi qui le faisais.
D'accord.
Dans mes projets. Du coup, j'ai des affinités de toucher à des moteurs, de programmer, de logique, etc. Donc, c'était pas forcément nouveau pour moi, en fait.
Ok, d'accord. Bah, c'est cool. Et du coup, tu passes de The Div à... Donc là, t'enchaînes Assassin, The Div...
Enfin, sur du beaucoup plus petit. Enfin, du beaucoup plus petit.
D'accord.
Du coup, à Candy Division Ship, je passe sur Steep, donc le jeu de sport extrême en montagne de Ubisoft, qui est sorti il y a un an et demi maintenant, qui à l'époque était vraiment un petit projet garage, où le but c'était de prendre l'ownership sur un projet. Ça faisait très longtemps que le studio voulait son projet à lui, 100%. Ils l'ont fait avec Steep, donc j'y étais pas dès le début. Quand je suis arrivé, ça faisait bien un an qu'ils étaient en conceptualisation. Ils avaient commencé la production, si je dis pas de bêtises. Et donc je les ai rejoints à ce moment-là, après Division, donc après un an et demi au studio. Et donc du coup, ça fait. J'ai fait 2 ans et demi dessus, vu que là, notre dernière extension, enfin notre dernier patch sur lequel j'ai travaillé est sorti, si je dis pas de bêtises, il y a. 3-4 mois là. Donc voilà. Donc j'ai fait ce type pendant 2 ans et demi, je dirais.
D'accord. T'es quelqu'un qui fait pas mal de trucs qu'on va retrouver souvent sur internet autour des univers de tes jeux. Je veux dire que tu fais un peu du cross-média personnel.
J'essaye.
Transmédia personnel.
Ouais, c'est un truc qui m'amuse de mettre des petits easter eggs.
Tu te mets un petit peu partout. Et là, en l'occurrence, on te retrouve sur les lives de la communauté. Hein.
Oui, c'est vrai. Si on va regarder des live streams de ce type, on me voit dans le dernier où je suis. D'ailleurs, je me fais ridiculiser en direct par un très très bon joueur de notre communauté, enfin le meilleur joueur de notre communauté, j'étais en train de démontrer je sais plus quoi et le mec a réussi à me retrouver, à popper dans le monde juste à côté de moi et à me défier en direct.
Cool.
Je savais que c'était notre meilleur joueur. Parce que je connais son pseudo parce qu'il nous casse nos leaderboards tous les 3 jours en faisant des exploits dans tous les sens. Donc on le connaît. et là je suis devenu tout blanc, quoi. Je me suis dit, j'ai répondu à son défi, mais je me suis fait ridiculiser.
Ça c'est très très bon, ça. En live, donc tout le monde a pu le voir.
Avec le game director à côté qui n'a pas pris la manette parce qu'il sait qu'il est moins bon que moi, mais qui me taunte en me disant Eh ben alors, t'y arrives pas. Et enfin voilà, c'est. Il m'a pas aidé sur ce coup-là. Mais c'était rigolo.
Et donc du coup, ce type est plus petite, Est-ce que ça veut dire pour toi responsabilité plus large,
Ouais.
tâche plus large, sujet plus large?
Ouais, t'es beaucoup plus de fonctionnalités. Là
D'accord.
où sur Division, par exemple, j'avais que une ou deux fonctionnalités. Là sur Steep, je suis monté jusqu'à une vingtaine. Je me
Ok.
souviens plus exactement des
Ouais,
chiffres,
donc
mais
ça fait quand même beaucoup de trucs à gérer en même temps.
voilà, on monte énormément en nombre de fonctionnalités à gérer, donc du coup beaucoup plus de responsabilités. On a beaucoup plus de contacts directs avec les équipes. Ça, c'est une chose qui est très importante aussi. Quand on sort de l'école, on a quand même cette vision du game designer dans sa tour d'ivoire, qui est maître du jeu et qui dirige toutes les équipes en disant toi programmeur, toi animateur, tu vas faire ci comme ça, comme ça. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et le studio, quand je suis arrivé, avait une très mauvaise vision du game designer parce qu'on le voyait comme ça. Et on s'est pas mal battu avec les autres collègues game designers pour casser un peu ce truc-là. Et je pense qu'on y est bien arrivé. Et en arrivant sur Steep, on avait bien commencé ce travail-là. Et les gens avec qui j'ai travaillé dans l'équipe design, notamment mon lead designer actuel, Boris, a beaucoup mis en place cette notion de game designer intégré aux équipes et qui travaille directement avec les équipes, pour les équipes. C'est pas les équipes qui travaillent pour le game designer, c'est le designer qui travaille pour l'équipe.
Ouais, c'est intéressant, c'est important aussi pour pouvoir faire de la pédagogie et un petit peu de politique quand même auprès des équipes pour faire valoir un peu ses features et expliquer un
Complètement.
peu ce dont on a besoin et pourquoi.
Ouais. Bah en fait, on a vraiment adopté sur Steep une philosophie qui est intéressante, qui est de. Nous, en game designer, on travaille en ce qu'on appelle les user scénarios, donc en scénario utilisateur, où on détermine ce que le joueur va vouloir retirer de la fonctionnalité. Donc, on établit les problématiques auxquelles on veut répondre, et les solutions, les idées, c'est pas forcément nous qui les apportons, c'est l'équipe. Ça, c'est un truc que je veux communiquer aux gens qui est très important. C'est pas le game designer, head game designer, c'est pas celui qui a les idées. C'est celui qui met en place les idées. C'est celui qui fédère les idées, qui récupère les meilleures idées pour répondre à des problématiques, qui les fédère et qui les met en place. Une très bonne idée peut très bien venir d'un programmeur, d'un animateur, de n'importe qui d'autre. C'est même eux qui ont les clés, en général. On peut arriver avec une idée qu'on trouve trop cool. Et le programmeur va nous dire non mais c'est pas possible, techniquement on peut pas la faire. Par contre, si on fait comme ça, eh ben c'est beaucoup plus facile en programmation et peut-être que c'est même mieux pour le joueur. Donc c'est important cette notion de sur Steep on s'est mis à travailler avec les équipes et c'est les équipes qui nous fournissent les solutions et qui nous aident à trouver les idées.
Ouais, il faut savoir être à l'écoute et comprendre aussi les autres avant d'essayer de se faire comprendre, quoi.
Exactement,
Ouais,
exactement.
c'est important, c'est intéressant. Bah du coup, ce que je te propose, c'est qu'on ferme un peu la page un peu longue de ta carrière, mine de rien, qui était super intéressant. Et j'aimerais qu'on se recentre un peu plus sur toi, sur ton travail, mais plus sur d'un côté de développement personnel, si je puis dire. Et du coup, la première question que j'avais pour toi, c'était est-ce que, à travers les expériences que tu as eues, est-ce que tu as un genre particulier sur lequel tu préfères travailler ou est-ce qu'il y en a un qui te fait particulièrement envie?
C'est
Ou
marrant
est-ce que
ça
tu
parce
ne penses pas
que
comme ça en fait? Peut-être que tu ne penses pas comme ça, tu ne penses pas par projet
Non, il y a des. Alors, je pense qu'il faut toujours essayer de se positionner par projet. Faut toujours essayer de choisir. On dit qu'on est un métier de passion, mais de passion, ça marche aussi et surtout pour les projets. Je vois pas mal de gens qui choisissent leur métier en fonction de l'entreprise où ils veulent aller. Je pense qu'il faut le choisir aussi surtout pour le projet. Moi, si je suis allé à Ubi Annecy, c'était pas parce que c'était Ubi, c'était un peu parce que c'était Annecy, mais c'était surtout parce que c'était le seul moyen pour moi de faire du Triple A multijoueur compétitif en France. Bon, ça n'a pas marché pour moi, peu importe, mais c'est là que je voulais aller pour le projet. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement comme genre, c'est le multijoueur compétitif. J'adorerais pouvoir aller travailler dans des entreprises comme Blizzard, comme Valve ou comme Riot pour bosser sur des projets comme ça de multijoueur compétitif. Ça, c'est ce qui me ferait rêver. Après, j'ai une autre philosophie maintenant qui a un peu changé. Je me souviens encore de la phrase que j'ai dit à mon game director quand il m'a fait passer l'entretien avant de m'embaucher. Il m'a demandé est-ce qu'il y a un genre de jeu que tu détestes sur lequel tu ne pourrais pas bosser. Je lui ai répondu les jeux de sport. Les jeux de sport, c'est pas pour moi, j'y arrive pas, jamais je pourrais bosser là-dessus. C'était un an et demi avant que je passe plus de 2 ans et demi sur Steep, qui est un jeu de sport.
Ok.
J'y joue avec plaisir parce que c'est un jeu sur lequel j'ai travaillé. Si j'avais pas travaillé dessus, j'y toucherais certainement jamais. Par contre, ça m'a redonné le goût des jeux de sport.
Ouais, c'est ce que j'allais te poser. Est-ce que ça a relié, à recréer ce lien avec le jeu de sport, qui est quand même un truc assez large au final?
Complètement. Je joue énormément à FIFA et Madden à l'heure actuelle. J'ai apprécié énormément la démo de Forza Horizon 4. J'ai raccroché avec les jeux de sport et surtout, je m'en veux énormément d'avoir dit cette phrase de « je ne toucherai jamais aux jeux de sport ». Pour moi, maintenant, il n'y a plus de genre de jeu qui ne m'intéresse pas, que ce soit en termes de jeu ou en termes de production.
Ouais, d'accord.
Je pense qu'une fois que tu mets du tien dans un jeu, une fois que vraiment tu te l'appropries, que tu en as l'ownership complète, enfin la propriété et les responsabilités, ça devient un peu comme ton enfant. Après, ça dépend de la sensibilité de chacun et de comment tu te projettes dans le jeu. Mais tu peux te faire à tout genre de jeu. Après, je pense que j'aurai quand même certaines limites. Je me vois mal bosser sur un ROG, par exemple, hein, sur du jeu de hentai. Je me vois mal bosser sur des trucs comme Hatred. Enfin, tu vois le truc. chacun a ses limites.
Ouais, non, mais c'est marrant parce que j'ai toujours le même discours. J'ai toujours eu le même discours sur les jeux de combat. Et puis au final, quand je vois comment ils sont faits et comment les outils qu'ils créent pour les créer, je me dis que au final, ça m'intéresse de plus en plus de voir le côté création de ces jeux de combat, justement.
Les jeux de combat, c'est un excellent exemple parce que c'est un genre de jeu où je suis très très mauvais, vraiment infoutu de faire un jeu de combat.
Ah oui, je peux te comprendre, moi aussi.
Et par contre, la façon dont ils sont construits, la façon dont les joueurs les déconstruisent, et j'ai regardé des championnats de Street Fighter qui sont absolument passionnants à suivre, c'est des productions qui doivent être extrêmement intéressantes. Par contre, je ne pourrais pas bosser sur un jeu de combat, pas parce que j'aime pas ça, mais parce que je pense fondamentalement que je n'en ai pas les compétences, que professionnellement je suis un foutu d'en faire un, quoi.
Ouais, mais je pense qu'il faut, est-ce qu'il faut pas déjà avoir, tu vois, une certaine expérience en tant que joueur?
Oui.
Je pense que c'est plus facile d'aborder probablement ce genre de sujet
Ouais,
en ayant
bien
déjà une
sûr.
certaine expérience, quoi. Et
Oui,
justement,
bien sûr, il y
sur
a des
ce
genres de
niveau-là,
jeux comme ça.
est-ce que tu as des genres qui étaient pour toi dans ta tête ton genre de prédilection? Par exemple, moi je sais que c'était à la base les shooters, les platformers et les jeux de course. Est-ce que toi tu avais avant des prédilections comme ça ou des envies d'expertise sur certains genres ou pas du tout?
Ouais, moi je suis quelqu'un de très système, de très RPG, tycoon, stratégie, gestion, etc. Je pense que maintenant, à l'heure actuelle, alors c'est peut-être parce que j'ai un peu plus d'expérience ou je sais pas pourquoi, mais ça m'ennuierait très vite de faire des trucs complexes avec des. Alors, tu vois, j'adore jouer aux jeux Paradox, Crusader Kings 2, Europa Universalis, etc. Ça me faisait rêver de bosser sur ces jeux-là quand j'étais un peu plus jeune. Maintenant que je sais ce que c'est qu'une prod de jeux vidéo, je me rends compte à quel point ça doit être la misère absolue de bosser sur ces trucs-là, et j'ai plus du tout envie, quoi.
Ouais, ça c'est tout à fait quelque chose que je peux comprendre. Donc, une autre question, tu en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure avec votre méthode de création et de design sur Steep, mais du coup, je voulais un peu savoir quelle était ta philosophie au taf, dans le sens où en tant que game designer, comment tu pensais un peu tes jeux, tes systèmes, tes mécaniques, tes features? Est-ce que justement c'est le joueur est au centre de votre création? Est-ce que vous faites ça sans réfléchir, sans concertation, avec toute l'équipe? Est-ce que vous faites d'abord un prototype? Qui est-ce qui donne l'élan? Ou est-ce que tu suis une directive? Comment ça marche un peu de votre côté?
Alors, je pense qu'chaque production a sa méthodologie en fonction de la direction, en fonction de comment est faite la hiérarchie du studio, etc. Mais je pense qu'il y a quand même pas forcément une vérité absolue, mais une chose qui est très importante à l'heure actuelle, qui est en train de se développer énormément avec ce qu'on appelle l'UX, donc UX, pardon, l'expérience utilisateur. On est de plus en plus dans la production, en sens global, hein, pas que Ubisoft ainsi, en train de recentrer l'utilisateur, donc le joueur, au centre de nos développements. Le développement de jeux vidéo, avant, ça se faisait dans des garages, à l'instinct. C'était des mecs qui avaient aucune formation, qui faisaient ça, ils faisaient des jeux qui leur faisaient plaisir à eux. Et du coup, c'était un peu le développeur qui était au centre. Maintenant, on fait des jeux qui sont tellement dédiés à tellement de monde, et il y a tellement de profils différents qui s'intéressent aux jeux vidéo. Parce qu'on va pas se le cacher, hein, il y a 20 ans, c'était des hommes blancs de entre 15 et 20 ans qui jouaient aux jeux vidéo. Maintenant, tout le monde joue aux jeux vidéo. Donc il y a des profils extrêmement différents. Donc il faut bien définir sa cible. Donc sa cible, ça ne veut pas dire qu'on va leur vendre des trucs, hein, ça veut dire qu'on va essayer de construire la meilleure expérience pour ces gens-là. Et on met ses utilisateurs, ses joueurs au centre de notre expérience. Et du coup, on en détermine d'abord des problématiques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Plutôt que de chercher tout de suite des idées trop cool, des solutions, des machins, on cherche d'abord une problématique. On veut faire quoi de notre jeu ? Cette fonctionnalité, on veut qu'elle réponde à quel besoin du joueur, comment on veut que le joueur, qu'est-ce qu'on veut que le joueur ressente en faisant ce truc-là. Et à partir du moment où on a posé ces bons postulats, là, ça c'est notre métier de game designer, là on travaille avec les équipes, on leur soumet ces idées-là en disant, bah voilà, je vous présente ce à quoi je voudrais répondre, on va travailler ensemble pour y répondre, est-ce que vous avez des idées ? Moi j'en ai par exemple, en tant que game designer, j'ai peut-être des idées, je vous les soumets, qu'est-ce que vous en pensez ? Et il y a une vraie discussion qui s'engage avec les équipes comme ça. Et c'est quelque chose de très simple parce que, en fait, les équipes, on leur donne une vraie ownership dans la feature, dans la fonctionnalité. Et en fait, ils se sentent investis. C'est pas juste des mecs qui, enfin, des mecs ou des nanas, pardon, j'ai fait des abus de langage, mais c'est pas juste des gens qui sont des exécutants, tu vois. C'est pas nos secrétaires à faire, on leur a dit, bah, la fonctionnalité, tu vas la faire comme ça, code-la comme ça, et puis on verra bien après. Non, c'est eux qui ont trouvé les solutions, c'est du coup ils sont investis en fait. Par exemple, je vais prendre l'exemple de la customisation dans ce type, parce que j'ai travaillé donc là-dessus sur tout ce qui est custo visuel, l'habillement de l'avatar, avec un programmeur c'est quasiment lui qui m'a soumis qui a eu toutes les idées pour répondre aux problématiques.
Ouais, okay.
C'est quasiment lui qui a, à chaque fois que je présentais une problématique, il avait tout de suite une idée en tête en disant, ah ouais, on pourrait le faire comme ça, ouais, on pourrait le faire comme ça, et à chaque fois je lui disais, ah bah ouais, c'est cool, vas-y, faisons-le comme ça. Et donc il savait comment le coder, en une demi-journée il avait fait sa tâche, et on enchaînait, et on s'est retrouvé avec un truc dont on était plutôt content, quoi. Et lui était super heureux d'avoir bossé là-dessus.
D'accord, donc c'est vraiment, on place le joueur au centre de notre conception, et l'équipe vient se greffer là-dessus, et on construit ensemble les choses, quoi.
Exactement.
Tu fais pas ton truc dans ton coin et
très
et t'essaies
peu.
Pas de l'imposer
en fait,
aux gens.
Ce qu'on fait dans notre coin, c'est tout ce qui est haut niveau, problématique et besoins joueurs. Donc les besoins du joueur, on détermine c'est quoi les besoins du joueur, on détermine c'est quoi les problématiques auxquelles répondre. Et tout le reste, on fait en équipe.
Ok, ça marche. Non, c'est intéressant. Parce que je pense qu'il y a toujours des gens qui sont bloqués dans leur vision.
Oui.
Et notamment, ça viendra sur des questions suivantes, mais on y reviendra après.
Ouais.
Une dernière question que je voulais poser spécifiquement sur toi. Après toutes ces années à travailler dans l'industrie et à passer ta journée à tester tes jeux, à itérer dessus, à faire des propositions, à voir comment ça fonctionne, est-ce que
ouais,
pour toi c'est toujours une passion, alors que tu passes toute ta journée à y penser et à concevoir et à y jouer?
Je crois que j'ai jamais autant joué que depuis que je bosse dans le jeu.
D'accord.
Vidéo. Alors, toute proportion gardée, parce que je jouais énormément avant, j'ai joué depuis 6 ans, j'ai toujours énormément joué. Je pense que j'ai jamais joué à autant de jeux en même temps que depuis que je bosse dans le jeu vidéo, on va plutôt le dire comme ça. Je teste tout, tous les jeux que je vois passer me font envie. J'ai envie de voir des nouvelles choses, j'ai envie de tester des trucs. Les jeux, je les finis rarement, parce que j'ai envie de passer à autre... Une fois que j'ai compris un système, j'ai envie de passer à autre chose. De me dire, ah tiens, tel jeu, comment ils ont fait ça. En fait, il y a une vraie curiosité qui s'installe. Je pense que il y a deux façons de le percevoir, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui jouent plus du tout, parce que c'est leur boulot, et ils ont pas envie d'emmener le boulot à la maison. Et il y a ceux qui en ressortent une vraie curiosité, mais il faut que ça reste sain et diversifié. Par exemple, je joue, depuis que je bosse dans le jeu vidéo, j'ai explosé mon temps de jeu.
D'accord.
En termes de jeux de société. Donc je m'intéresse à des médiums différents en fait, dans le ludisme, ce que je ne faisais pas du tout avant, par exemple.
Et du coup, ça aussi, ça
m'intéresse à
jouer à tous ces trucs-là, ça t'aide aussi en tant que designer, du coup, je suppose.
Oui. Alors il faut, en fait, il faut pas. Il faut... Il faut pas être arrogant quand t'es game designer. Globalement, le média a beau être très jeune, t'es à peu près sûr, à part une avancée technologique majeure, que la fonctionnalité sur laquelle tu travailles, il y a quelqu'un qui y a déjà pensé. En tout cas, la problématique à laquelle tu veux répondre, il y a quelqu'un qui y a déjà pensé et qui a déjà proposé une solution. Et il n'y a aucune honte à regarder ce que les autres ont fait, à se dire « Ah oui, d'accord, ils avaient la même problématique que moi, voilà comment ils y ont répondu, c'est intéressant. Est-ce que je pourrais pas faire pareil, mais un petit peu mieux ? Ou est-ce que je pourrais pas juste un peu changer pour répondre en même temps à une autre problématique ?» Tous les gens qui font... Par exemple, je prends l'exemple de Spider-Man à l'heure actuelle, où tous les gens disent « Ouais, bah, mais c'est le système de combat de Batman. » Et alors ? C'est pas grave. Batman, ils ont eu comme problématique de faire un système de combat qui marche avec un super-héros. Spider-Man, t'as besoin de faire des combats avec un super-héros. Ouais, y a pas besoin
de refaire la roue.
Bah, c'est pas grave. Tu reprends le système de Batman et puis tu...
Mais du coup, est-ce que t'arrives encore à jouer sans cet œil de concepteur ? Toi, d'être étonné, parce que tu vois, c'est quelque chose sur lequel tu pourrais être vraiment en demande, quoi. Tu pourrais chercher que à être étonné tout le temps.
Alors, je le vois à l'inverse, dans le sens où je l'ai jamais... J'ai toujours été comme ça, en fait. Je me suis rendu compte, avec le temps, que quand je jouais, avant d'être game designer, j'avais déjà ce côté, analyste, à me demander « Ah tiens, c'est intéressant, comment ils ont fait? Pourquoi ils ont fait comme ça ?» Moi, quand je vois un bug ou un truc tout pété dans un jeu, je vais pas me dire « Oh, c'est vraiment des manches, c'est vraiment nul ce qu'ils ont fait. » Je vais toujours me dire « Ah ok, alors pourquoi ils se sont plantés? Quelle était la raison derrière? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de mieux mais qu'ils n'ont pas eu le temps de faire ?» Ce genre de choses. Ça, j'ai toujours eu. Je pense que j'ai toujours eu. Pas quand j'avais 6 ans, faut pas déconner. Très tôt, j'ai eu un œil curieux et critique sur les jeux vidéo et je pense que c'est une façon de consommer le jeu vidéo qui est importante, un état d'esprit en tout cas qui est important si tu veux rentrer dans le jeu vidéo, enfin, en tant que game designer du moins.
Ouais, carrément. Cool. Ce que je te propose, c'est qu'on passe à l'avant-dernière partie où j'aimerais qu'on discute un peu de ta vision sur quelques points de l'industrie comme ça.
Ouais.
Et ma première question sur ce sujet, c'était... justement, ce que tu pensais des formations spécialisées. Donc, je suppose que dans ta carrière, tu as vu quand même passer des gens de ces formations, des gens qui en sont sortis, des gens qui en sont sortis avant toi, qui ont exposé un peu leur avis sur le sujet. Toi, tu y es passé toi-même. Et du coup, ces formations, alors il y a aussi la problématique de les formations face aux autodidactes, surtout au début d'il y a une vingtaine d'années pour nos vétérans et les premiers. Mais du coup, quel est ton avis sur le sujet ? C'est un sujet assez large, on va essayer de pas trop s'étaler, mais qu'est-ce que tu penses de ces formations aujourd'hui ?
Alors, j'en pense du bien et du mal. Du mal déjà parce qu'il y en a beaucoup trop. Et il y en a, en fait, la formation jeux vidéo est en train de devenir comme la formation d'école de commerce. Il y a énormément de monde, renseignez-vous énormément sur les différentes formations en jeux vidéo, surtout dans les écoles privées qui coûtent des milliers d'euros par année, il y en a énormément qui sont comme les écoles de commerce, qui vendent des formations en vantant 95% de taux d'embauche, etc., qui ne sont en fait que des fumisteries avec des gens pas compétents à l'intérieur. Des formations pertinentes en jeux vidéo en école privée, ça se compte sur les doigts d'une main. Je veux pas trop faire de comparaison parce que je les connais pas très très bien et je voudrais pas balancer des noms comme ça, mais globalement celles qui sont à peu près sûres, c'est Superinfo Game, pas parce que je l'ai fait mais parce qu'elle est renommée comme étant une des meilleures. L'Engmin, l'avantage de l'Engmin c'est qu'elle est gratuite, si je dis pas de bêtises, qu'elle est financée par l'État. Et ensuite il y en a des très intéressantes aussi, Lizard de réputation ça va à peu près. Il y a Gamagora à Lyon, il y a beaucoup de monde à Ubisoft Annecy qui sort de Gamagora, notamment en level design ou en programmation. Donc voilà, ça c'est pour citer celles que je connais, auxquelles j'ai confiance quand je les vois sur un CV. Pour les autres, il faut se renseigner. Ça veut pas dire que si tu fais ces formations-là, t'es bon. Il y a des gens qui sortent de ces formations-là qui sont pas bons.
Clairement.
Voilà.
Il y a toujours des gens qui passent à travers les mailles du filet. Hein.
C'est ça. Ça veut pas dire que si tu ne sors pas de cette formation, t'es pas bon aussi. Les deux juniors dont je parlais avec qui je travaille, les deux game designers juniors, c'est des gens qui sortent de formation universitaire de game design.
D'accord.
Et qui sont rentrés dans le jeu vidéo en faisant d'abord dev tester. Donc en fait, ils ont testeur QA, quoi, qualité. C'est des gens très très compétents, qui ont un autre état d'esprit, qui ne sont pas formalisés dans un carcan scolaire. qui ont plus une approche par la pratique, etc. Et qui sont, il y en a un en fait qui regarde une heure et demie de conf tous les jours depuis un an et demi. Je sais pas comment il fait. Je suis ultra impressionné à chaque fois. Mais en tout cas, il sait de quoi il parle sans avoir fait d'école. Donc ça, c'est pas décourageant.
D'accord. Donc pour toi, il y a encore, une place aux autodidactes, quoi.
Ouais, exactement.
Enfin, si on peut appeler autodidacte, il a quand même une formation spécifique, ouais. Mais qui est pas non plus un cursus de 3 ans ou 5 ans spécialisé là-dedans, quoi.
Exactement. L'avantage des formations comme ça, c'est le on l'a déjà dit, c'est le réseautage. C'est le networking en anglais. C'est des écoles qui connaissent énormément de monde et qui sont connues par énormément de monde. Je connais des gens à Ubisoft qui vont faire les jurys de Super Info Game, qui vont donner des cours à Super Info Game, pareil pour l'Engmin, etc. Donc c'est comme ça que tu rencontres des gens, en fait, que tu mets ton pied dans la porte de l'industrie plutôt facilement, mais ça coûte cher. Ce que je conseille de faire pour les gens qui préfèrent être autodidactes et que je trouve très intéressant, il y a une vidéo par exemple de la développeuse du dimanche, je me souviens plus son prénom, c'est Lola, je me souviens plus de son nom, un TED Talk qui dit que tout le monde peut faire du jeu vidéo, et elle présente son parcours où elle a tenté une école et où ensuite elle est passée plutôt en autodidacte, et que je trouve très intéressant.
Alors, on mettra le lien dans la description de l'épisode. Ouais.
Okay, parfait, excellent. Ce que je veux dire là, c'est qu'elle, en fait, faut faire des trucs, faut faire des jeux, faut faire des mods, faut produire des choses. C'est comme ça que tu te fais reconnaître. On va prendre l'exemple tout bête de Dota 2, ou de Dota, tout court en fait. C'est un mec à la base qui s'appelle Ice Frog, qui a juste fait un mod sur Warcraft 3. Warcraft 3, il y avait du modding, le mec il a fait un mod, maintenant il est designer principal chez Valve sur un des MOBA multijoueurs compétitifs les plus performants du marché. Et qui a donné après des clones comme League of Legends, etc. Donc, voilà. C'est pareil pour... tant que je dis pas de bêtises, mais Portal, qui devait être un mod à la base, il me semble, fait par une nana qui bosse maintenant chez Valve, dont je me souviens plus le nom, mais peu importe.
Kim quelque chose.
Ah, Kim Swift.
Kim Swift, voilà.
Bien vu, ouais. C'est pareil sur Team Fortress, je crois que c'était un mod de Counter-Strike à la base. Voilà, faites des mods, c'est super important.
Ouais, construisez, c'est la construction du portfolio de toute façon de manière générale, hein.
C'est ça. Donc ne venez pas en fait avec votre ça vaut même pour les gens qui font une formation en école. Alors, désolé, j'ai mon sac, chaque une casque de noix, hop, coupera au montage. Je vais prendre l'exemple de Trials aussi chez Ubi. Eux, 100% de leur level designer sont des gens de la communauté recrutés par du modding.
D'accord. En fait. Plutôt pas mal, gros, plutôt intéressant. Il y a une bonne vision du coup de la communauté là-dessus, quoi.
C'est ça. En fait, les outils que les joueurs ont à leur disposition pour créer les niveaux dans Trials, c'est les mêmes que les level designers dans Ubi. Enfin, chez Red Lynx qui bosse sur Trials. Du coup, c'est pas compliqué. Les meilleurs modeurs deviennent des level designers, sont recrutés par Ubi. Tu parlais du portfolio. Même quand vous venez d'une école, ne venez pas juste en disant moi j'ai fait telle école, je suis trop fort. C'est bien, hein, vous êtes 42 par promo, il y a 4-5 écoles valables en France, ça fait 200 game designers qui sortent par an. Ouais, c'est bien, qu'est-ce qui vous différencie des autres? Les projets que vous avez faits. Si vous êtes capable de montrer que vous avez fait des jeux, c'est déjà vachement plus intéressant. Donc faites des game jams, faites des jeux dans votre coin, etc., faites des modes.
Ouais, et puis être capable aussi d'avoir un recul sur ce que vous avez fait, pour être capable d'en parler, c'est ça aussi qu'on va peut-être rechercher. Ok, cool, c'est intéressant. Alors moi, on m'a parfois dit que quand j'étais du coup dans ces cursus-là, de faire attention aux vétérans de l'industrie qui pouvaient peut-être avoir leurs vieilles méthodes, les méthodes voilà, qu'ils ont mis en place dans les années 90, au début des années 2000, des méthodes un peu anciennes, et que c'était des gens qui ne voulaient pas forcément se mettre à jour ou s'adapter. Alors attention, hein, je fais pas une généralité, hein, évidemment, hein. C'est probablement des cas particuliers. Mais du coup, est-ce que toi, t'as rencontré ce genre de profil, et si oui, comment tu l'as abordé? C'était quoi la relation du coup avec des seniors ou les vétérans que t'as eu sur ton parcours?
Ouais, à Ubi, on en a pas mal, hein. On a quand même des gens qui ont 15-20 ans de boîte. Globalement, ils ont tous en commun que ils ont commencé dans le jeu vidéo est un médium qui a bougé très très vite ces dernières années. Et eux, ils ont été dans une zone de confort pendant une dizaine d'années où ils faisaient les jeux toujours de la même façon, en mode garage, en mode instinctif, etc. Et donc, comme ça s'est toujours bien passé, ça s'est toujours passé comme ça pendant 10 ans. Forcément, du jour au lendemain, il y a plein de petits jeunes qui arrivent avec des méthodologies nouvelles, avec des réflexions, avec des choses qui changent tous les ans. On fait plus ça à l'instinct, on essaie de mettre le joueur en avant, etc. Alors, ils sont pas réfractaires au fait de mettre le joueur en avant, ça, bien sûr que non. Mais des fois, ça peut coincer. Surtout avec des choses un peu borderline, comme la monétisation, par exemple. La monétisation, c'est un sujet très touchy parce que il y a des choses intéressantes à faire en monétisation. C'est pas forcément que du truc pour choper de l'argent aux joueurs. Il y a des choses qui peuvent être demandées par les joueurs, qui peuvent être plaisantes.
Ouais,
on peut penser au système de... parce que je maîtrise pas assez le sujet.
Bon,
mais...
on peut parler du, enfin, on peut évoquer le système de CS:GO, hein.
Par exemple.
Les caisses et la customisation qui plaît pas mal aux joueurs. Ouais.
Exactement, oui, il y a un gros marché sur CS:GO parce que ça n'impacte pas le jeu. N'importe qui peut le faire s'il le décide. S'il le décide de pas le faire, ça n'impacte pas son jeu. C'est de la customisation d'expérience. T'es pas obligé d'investir énormément d'argent. Si t'as un peu de chance ou si tu te débrouilles bien avec des échanges, tu peux te retrouver. Il y a un petit sentiment d'économie intéressant là qui marche bien. Moi, je fais partie de cette génération qui trouve ça intéressant, au moins intéressant. Je dis pas que c'est bien, je dis que c'est au moins intéressant de regarder comment c'est fait et d'essayer de faire ça de la manière la plus cool possible pour le joueur. Par contre, ouais, les seniors, etc. Eux, c'est très nouveau pour eux. Ils ont vraiment l'impression qu'on se moque du joueur. Et ils sont très réfractaires à ce genre de choses. Et parfois, ça fait des échanges un peu tendus, ouais. on s'en sort toujours.
Ouais, il y a toujours un terrain d'entente. Encore une fois, c'est de la politique et de la pédagogie, hein, le design. Donc,
exactement, ouais. Apprendre à discuter avec les gens, apprendre en compte les différents avis, caractères, façons de parler. Des fois, ils râlent très fort, mais en fait, c'est juste histoire de râler. Hein,
bah, alors justement, par rapport à ces personnalités... Malgré le fait que ce soit une industrie assez créative, il y a quand même beaucoup d'ego. Ça se voit directement quand on entre dans l'entreprise ou même carrément sur les étudiants qu'on peut rencontrer. Du coup, comment toi tu fais pour gérer tous ces egos?
Ouais, c'est. Alors, le premier ego à gérer, c'est toujours le sien, hein. Forcément. Ça, c'est le premier problème. moi, j'aime à me dire que j'ai pas trop ce problème-là. En fait, quand t'arrives à te mettre dans l'état d'esprit que c'est un travail d'équipe et que les meilleures idées, elles viennent pas de toi, que toi, ton boulot, c'est de prendre les meilleures idées chez les autres et de les assembler, déjà, t'as fait un bon pas dans la bonne direction. Parce que ça, c'est le gros travers, en fait, des mauvais game designers qui pensent que ils vont avoir les meilleures idées du monde et qu'ils ont l'idée qui va révolutionner le jeu vidéo, quoi. Non, ça arrivera jamais. Ça arrive une fois toutes les générations. Et encore, en général, ça arrive par hasard. Je prends des cas comme Minecraft ou comme les Battle Royale. C'est pas des game designers qui se sont penchés des heures sur une feuille de papier, hein. C'est des mecs qui ont testé
un
des
truc
trucs
et ça a marché,
voilà,
quoi.
C'est ça. Donc les egos, comment les gérer, en fait ça dépend. Ça, c'est un peu la contrepartie problématique du AAA, c'est qu'il y a quand même une chaîne de hiérarchie, forcément, que ça fonctionne dans les grosses équipes. Et si les egos sont placés dans la direction, nous on n'a pas trop ce problème là Ubisoft ainsi. Je dis pas ça pour pas me faire engueuler par mon directeur, hein, mais je pense qu'il y a des entreprises, et ça s'est vu avec les enquêtes de Mediapart et Canard PC récemment, ou d'autres cas. Je vais citer le cas de Hélène Noir, par exemple, qui est assez réputée pour avoir eu un creative director, enfin directeur créatif, qui avait un ego surdimensionné et qui a failli couler la production. Quand ça se passe au niveau de la direction, c'est toujours problématique à gérer, en fait, parce que forcément ils ont moins de monde au-dessus pour les ramener sur terre, en fait, quoi. C'est la même chose qu'avoir un réalisateur de film qui avec un ego surdimensionné, hein. C'est les problèmes, même problème que partout, hein.
Je trouve ça intéressant parce que il y a aussi des questions que je me suis toujours demandé. Sur est-ce que ça serait pas intéressant justement de travailler avec ces moi ce que j'appelle les dictateurs créatifs, toi,
Excellent.
mais comme il y a des grandes figures de l'industrie, comme par exemple Kojima, quoi, tu vois, qu'on pourrait imaginer, ou le gars, sur son projet, il a quand même une direction créative qui est très forte, qui l'ancre lui-même. En tout cas, c'est ce qu'il laisse paraître. Du coup, je me suis toujours demandé si ce mec était vraiment. Toi, à quelle liberté il laissait à son équipe, et si c'était pas son projet, son ego. Après, bon, les Japonais, c'est une autre manière de travailler, je pense aussi, mais
Ouais.
je pense que sur ces
Les Japonais, c'est
projets-là, avec les
spécial,
grands
hein, mais
dictateurs, oui, les dictateurs créatifs, il y a la balance entre une direction créative très forte, mais une liberté pour l'équipe assez étroite, quoi.
Ouais, moi je pourrais pas hein, travailler avec des gens comme ça. C'est pour ça aussi que je dis que Ubisoft Annecy ça va à peu près parce que j'arriverai pas à bosser avec des gens qui font pas confiance à leurs équipes et qui prennent toutes leurs décisions dans leur coin sans laisser la moindre miette d'opportunité aux équipes en fait. Toi, Kojima, c'est un excellent exemple parce que j'ai beaucoup de mal avec ces jeux, moi perso, juste à cause de ça en fait. Quand je vois le générique du jeu et que je vois personne dans l'équipe
Kojima,
de game
Kojima,
design,
Kojima, Kojima.
ouais, c'est ça, je me dis, mais punaise, enfin. Alors, soit il a vraiment fait tout seul et c'est un monstre, et c'est possible, soit il y a des game designers dans le tas qui sont pas cités et je trouve ça vraiment moche, quoi. Ouais, je sais pas. Moi, j'y arriverai pas en tout cas.
Ouais, carrément, non, mais je peux comprendre. Ok, et ben écoute, je te propose de passer à la dernière partie de l'émission. C'est un peu la partie recommandation, goût, avis du moment. Alors, évidemment, je veux pas créer de problème avec ton employeur Ubisoft actuellement, mais toi, dans tes rêves, sur quelle franchise tu voudrais travailler? Est-ce qu'il y a une franchise qui te fait rêver, peut-être dans les jeux qui sont orientés sport compétitif?
Ouais, en sport compétitif à l'heure actuelle, il n'y en a pas des masses qui me font rêver parce que je trouve qu'ils sont dans un carcan beaucoup trop établi. Les codes se sont vraiment cristallisés énormément. C'est pour ça que Assassin's Creed multijoueur m'intéressait parce que il sortait un peu de ces carcans-là. Là, tu vois League of Legends ou Dota, ils sont quand même bloqués depuis plusieurs années dans leur modèle. Après, je dirais pas non à bosser sur Dota, par exemple, ou sur League of Legends. Mais c'est pas la franchise qui me fait le plus rêver. Vraiment, mon petit kiff perso sur lequel j'aimerais bien bosser, c'est World of Warcraft. Ça, c'est
Ok.
vraiment un truc qui me ferait kiffer.
Ok. Et tu
Parce que
voudrais gérer quelle
tu...
partie, par exemple? Plutôt
Les
RPG,
boss,
gestion
les
des
raids.
persos,
Non,
custo.
les raids.
Ok.
Les raids, les boss, c'est toujours été un truc. Je trouve qu'ils ont toujours été en avance sur tout le monde à ce niveau-là. Sur les boss encounters, à tous les niveaux, que ce soit dans les donjons, dans les quêtes, dans les raids, donc à toutes les échelles. Ça fait 15 ans qu'ils font des boss de qualité, ça fait 15 ans que c'est copié. On n'en parle pas beaucoup, mais ça fait 15 ans que c'est copié par tout le monde. Tu regardes les boss de Division, les boss de Borderlands, les boss de Destiny. Les boss de Destiny, ils doivent tellement à World of Warcraft. Je trouve qu'il y a une qualité de construction dans. Il y a un tel lien entre l'univers, les mécaniques, tous les systèmes de jeu, toutes les classes. Ils ont énormément de classes de perso qui interagissent entre elles. Les boss sont faits autour de ça. Je trouve ça assez magique.
D'accord, ouais. Bon, de toute façon, c'est pas un classique qui fonctionne depuis combien? 15 ans, 20 ans maintenant pour rien. Donc,
15 ans, 15-16 ans aussi, je crois.
alors ensuite, je voulais te demander, est-ce que tu avais des recommandations en lecture ou en chaîne YouTube peut-être, mais en lecture de
Ouais.
bouquins, je sais pas, sur du GD, du LD ou du développement personnel, quelque chose comme ça? Quelque
Alors,
chose
sur
qui
du
t'aide à
GD.
avancer, qui t'a aidé à avancer en tout cas?
Sur du GD, il y a The Art of Game Design de Jesse Schell. Donc l'art du game design en français.
Ouais, un grand classique,
Jesse
ouais.
Schell, c'est un grand grand classique, c'est vieux, hein, ça date de 2011 si je dis pas de 2011 ou 2012. Juste pour faire court, Jesse Schell, c'est un designer qui était level designer chez Disney sur les parcs Disneyland à la base et qui a une approche du coup très intéressante et assez en dehors des chemins connus du jeu vidéo. Mais en fait, il a une phrase qui m'a scotché absolument et que je trouve très juste au début de son livre, où il dit que on n'a pas encore le Mendeleïev du jeu vidéo et on ne l'aura jamais. Alors Mendeleïev, c'est celui dans la chimie qui a inventé le tableau périodique des éléments là en physique chimie qu'on apprend au lycée, qui donc a cristallisé la physique chimie sur des choses très précises et sur des codes immuables. En fait, il a établi tous les codes des éléments. Et donc il y a un tableau qui dit, voilà, les éléments chimiques, ils fonctionnent comme ça et jamais ça bougera. Et il dit donc dans le jeu vidéo, on a encore personne qui est venu et qui a dit, la formule secrète pour faire un bon jeu vidéo, c'est celle-là et elle bougera jamais. On ne l'a jamais eu, on ne l'aura jamais et il ne faut pas l'avoir. Et je trouve ça très juste. Le jeu vidéo, c'est pas fait pour être quelque chose qui se cristallise. Il y a des entreprises qui cherchent cette formule magique. Et qui veulent absolument l'établir, et je pense que c'est une erreur absolue. Ça tuerait absolument le jeu vidéo que d'avoir ce genre de choses.
Et ça nous empêche pas pour autant d'avoir des méthodes de création
Oh, bien sûr, bien sûr. Non, non, il y a des best practices, donc je sais pas comment dire en français, mais les pratiques les plus efficaces. Il y a forcément des méthodes de production, il y a des mécaniques reconnues comme étant intéressantes. Etc. Mais je pense qu'il faut pas tomber dans la méthode absolue pour faire le bon jeu vidéo. La recette magique, elle n'existe pas, quoi. Donc voilà pour Jesse Schell. En termes de trucs très intéressants pour être un peu plus moderne et dans ce que je disais sur l'expérience utilisateur et le joueur au cœur de l'expérience, et ça aide aussi un peu en développement personnel, il y a le livre de Celia Odent qui s'appelle The Gamer Brain, je crois. Ouais, c'est ça. Qui est très intéressant. Ça parle d'expérience utilisateur et de tout ce qui est neurosciences et lien avec le jeu vidéo.
Donc Celia Odent, hein, intéressant. Pour ceux qui, s'il y a des auteurs qui savent pas encore qui elle est,
oui.
Elle est très trendy en ce moment, puisqu'elle était directeur UX à Epic
sur Fortnite,
sur
ouais.
Fortnite et sur le Unreal Engine 4, donc oui. Voilà.
Et chez Ubisoft avant.
Aussi, ouais.
Elle était chez Ubisoft avant.
Donc ouais, lecture intéressante du coup.
Ouais.
Ok, et du coup, est-ce que tu as une chaîne YouTube
Ouais, alors ma chaîne YouTube favorite.
Parce que c'est pas forcément
vidéo,
quelque chose qu'on
que connaît
énormément.
Ouais, que je trouve absolument fantastique, c'est Extra Credits. Alors c'est en anglais, mais je crois qu'il existe une variante française, dont je me souviens pas. Mais bref, Extra Credits, c'est une chaîne YouTube qui déconstruit des mécaniques de jeux vidéo pour les vulgariser et les expliquer. Et pour ils ont cette approche intéressante de il n'y a pas de solution. Bah, je suis encore dans la non-solution miracle, mais ils sont toujours en train de mettre en perspective et de dire ben ce jeu-là a essayé de faire ça et c'était il n'y a pas forcément de solution meilleure, etc. Enfin c'est voilà, si vous voulez apprendre de la vulgarisation de mécanique de jeu, de game design. Etc. Extra Credit, c'est vraiment cool. Il y a une variante française que je trouve intéressante, c'est la chaîne de Dr. Giro, Giro Zucchini, qui est un mec qui avait travaillé à Ubi d'ailleurs à un moment, qui fait pareil de la vulgarisation de jeux vidéo en français et qui est plutôt intéressante. C'est moins poussé parce qu'il a moins le temps que Extra Credit, qui fait vraiment ça de manière quasi professionnelle. Mais ça, c'est intéressant, c'est toujours intéressant.
Ok, d'accord.
Et puis voilà. Ouais.
Je me demandais, en dehors du jeu vidéo et de ta famille, du coup, parce qu'on a compris qu'elle a quand même une grosse place, notamment dans le choix de carrière.
Ouais.
Est-ce que tu as encore des loisirs à côté, en dehors du jeu
vidéo ?
C'est
primordial. Un mec ou une nana qui vient en game design et qui dit « Moi, je fais que du jeu vidéo », c'est pas intéressant du tout. On a besoin de gens qui font autre chose et qui s'intéressent à autre chose. Ça peut être dans le ludisme. Hein. Moi, en ce moment, je suis à fond sur la NFL, donc sur le foot américain.
Ok.
Je m'intéresse
donc,
à fond
gros,
dans les
gros,
règles.
Gros pack de règles, quoi.
C'est ça, en fait. Et de voir à quel point les gens qui regardent, donc il y a quand même énormément d'Américains qui regardent ça, comprennent ces règles absolument compliquées et qui semblent opaques. Et en fait, quand tu démêles la pelote de laine, tu te rends compte que c'est super simple et que c'est un sport qui est entièrement construit autour de l'entertainment, donc de l'amusement et de la distraction de la personne qui regarde. Et c'est du jeu d'arène moderne et je trouve ça passionnant à regarder. Ça reste dans le ludisme. Mais c'est intéressant. Mais avoir des choses à côté. En ce moment, alors j'ai pas trop le temps de dédier, j'ai pas trop de temps à dédier à ça, mais j'essaie d'apprendre un peu des choses sur les oiseaux de proie, par exemple. Toi, ça a rien à voir, mais ça me permet de sortir du jeu et de m'intéresser à d'autres choses. J'ai plein d'oiseaux de proie vers chez moi, j'essaie de les observer, de savoir les reconnaître, de savoir comment ils fonctionnent, etc. Et je pense que c'est extrêmement important d'être curieux de plein de choses différentes et d'être capable de parler d'autres choses que de jeux vidéo, parce que tu peux rapprocher ces expériences, si tu arrives à retirer des expériences de ça et à les rapprocher dans le jeu vidéo, tu vas enrichir le médium et enrichir ton travail. Et je pense que c'est ça qui créera des expériences encore plus intéressantes. Sinon, on va tourner en rond, en fait. On va toujours faire la même chose.
Ok. Et alors, on en arrive du coup à ma dernière question. On dit souvent que il faut échouer pour ensuite réussir. Est-ce que toi, tu as un échec ou une erreur dans ton parcours ou dans ta carrière que tu voudrais partager et qui t'a fait grandir?
Le fait que pendant tous mes mois de chômage, j'ai pas réussi à produire ne serait-ce qu'un seul début de proto personnel. J'aimerais beaucoup pouvoir travailler sur un proto personnel pour pouvoir me libérer créativement des carcans du triple A. J'adore le triple A, mais t'es quand même bloqué créativement et j'ai envie de faire un projet à moi. Sauf que là, j'ai plus le temps. Autant je joue énormément, autant produire du jeu à la maison, c'est pas possible. Je fais ça 8 heures par jour
Ouais,
à la
voilà, c'est
maison, j'y
ça.
arrive
C'est que ça
plus.
devient compliqué au bout d'un moment, quoi.
C'est ça. Ne pas avoir réussi à avoir ne serait-ce qu'un début de proto pendant mes mois de chômage pour pouvoir le continuer à le polish et à le tweaker à la maison en ce moment alors que j'ai pas trop le temps. Ça me reste un peu en travers de la gorge. Encore plus maintenant, enfin bientôt 2 enfants. J'aimerais bien pouvoir leur créer un petit jeu pour eux où c'est papa qui leur a créé et où ils peuvent apprendre des choses avec ce
Ouais,
petit
ce
jeu.
serait mignon.
Et ouais, j'arrive pas à trouver le temps et ça me frustre un peu. Du coup, on en revient à ce qu'on disait, hein, faut produire des choses. Hein. Quand vous avez un peu de temps, produisez des choses. Faites des trucs, hein, faites des jeux.
Ok, et eh ben écoute, Martin, on est arrivé à la longue liste de questions et de sujets que je voulais aborder avec toi. Je te remercie beaucoup de ta participation. Pour
Et bien de rien.
ce pilote de lancement de Meet the Dev. Je sais pas si tu as un dernier mot à nous accorder aux auditeurs et à moi-même.
Bah, ouais, je dirais que c'est très intéressant. J'ai beaucoup apprécié participer à ça. J'ai beaucoup apprécié aussi voir le mouvement, enfin le mouvement, c'est pas un mouvement, mais le hashtag Meet the Dev sur Twitter. Parce que je trouve que le jeu vidéo est encore trop anonyme en fait. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui ne se rendent pas compte que derrière le jeu vidéo, c'est des humains qui ont des vraies réflexions, des vraies compétences, des vraies envies et bah, des vies à côté quoi. C'est un milieu qui est encore un peu trop déshumanisé, je trouve. Et ce genre d'initiative, je trouve ça cool. Ça permet de remettre un visage sur le jeu vidéo et c'est cool.
Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est remettre le visage derrière les gens qui sont derrière
Ouais,
les jaquettes.
c'est ça, exactement.
Eh bien écoute, je te remercie beaucoup. On va se quitter là-dessus.
Et ben, à la prochaine, merci.
Merci beaucoup à toi. Voilà, c'était donc mon entretien avec Martin Dinet, game designer à Ubisoft Annecy. Je le remercie évidemment de bien vouloir s'être prêté à cet exercice pour le pilote de Meet the Dev. Vous avez pu voir les différents sujets que nous avons abordés de manière assez large. Je pense que c'était un bon épisode d'introduction pour le podcast encore une fois. Merci à vous de nous avoir écoutés tout le long pendant cette heure, un peu plus d'une heure d'ailleurs. Désolé pour les couacs techniques, évidemment, on va essayer de régler tout ça. On se retrouve pour de nouveaux épisodes. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Twitter @pod meet the dev. Vous pourrez également normalement nous suivre sur vos applications de podcast favorites. Si vous souhaitez participer à l'émission, n'hésitez pas à me contacter sur ces plateformes et on s'arrangera. quant à moi, je vous laisse ici. Je vous souhaite bonne route jusqu'à notre prochain épisode, notre prochaine histoire, prochaine carrière, prochain invité. À bientôt.